got my wild cherry diet Pepsi, and I got my blackjack gum here, and I got that feeling. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
Ouais, non, vous vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
Don't ever feed him after midnight.
She's alive! Alive!
Ready to party!
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
How about that? Well, nobody's perfect.
Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage, l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne.
Vers l'infini et au-delà!
Voilà maintenant plus d'un mois que cette émission est orpheline de sa présentatrice, laissée aux mains de ses chroniqueurs et chroniqueuses au goût cinématographique douteux. Ce soir, l'émission sent la Méditerranée quand même, le steak and shake, la croisette, bref, l'émission est presque cannoise. Et pour célébrer le plus beau et sans doute le plus fou des festivals, on vous parle ce soir du deuxième acte, 67e production signée Quentin Dupieux cette année seulement, du fameux petit truc en plus d'Artus qui bat tous les records et qui, fait rare, montera les marches à Cannes après sa sortie. On intercalera à cette programmation spéciale une sortie de la semaine, Rokia de Saïd Belkitibia, et d'une série Arte, Bouchon, avant de retourner à Cannes pour une interview spéciale de Jonathan Millet pour son film Les Fantômes, qui ouvre la semaine de la critique cette année, et un reportage spécial de Picane, d'Imen, Manon et Yuri, qui sont déjà sous la fameuse pluie cannoise. Pardon. Extérieur nuit, c'est parti. Pour les news... Allons-y, donc Alban, vas-y, Alban.
Pour les news en numéro 1 du box-office, parce que je vais faire le box-office tout de suite, c'est un petit truc en plus, sans surprise, dont on a décidé de vous parler cette semaine, parce qu'on veut rattraper notre retard, et on essaie de comprendre pourquoi ce film fait un cumul de 2 124 000 entrées pour une semaine à 992 000 entrées, ce qui est énorme. En deuxième position, un Newcomers, La planète des singes, le nouveau royaume, dont on vous a
pas parlé,
je crois, qui fait 933 000 entrées, et en troisième position du podium, on a Blue & Company, dont on vous a parlé il y a 2 semaines, je crois, ou la semaine dernière, je n'arrive plus à me souvenir. Et c'est un film dont on a dit plutôt du bien, un film sincère, un film honnête pour les enfants. Donc on est plutôt content que ce film se place en troisième position.
Et pour le 14h de Paris, Laurent ?
Le 14h de Paris, il commence, comme souvent, sans surprise, avec le deuxième acte, le dernier film de Quentin Dupieux, dont on vous parle évidemment ce soir, qui fait quand même un gros démarrage, même s'il y a eu beaucoup d'avant-première hier, parce qu'en fait,
c'est
sorti hier soir.
C'est le premier meilleur démarrage français de l'année en 2024.
Ah. Oh.
Donc.
Oui, mais en même temps, il est sorti hier soir. Je pense qu'ils ont comptabilisé les trucs d'hier soir. Donc en fait,
c'est de la triche.
C'est un peu de la triche, mais bon. Il fait 2231 d'entrées pour 30 copies, donc une moyenne de 74, ce qui est quand même une belle moyenne, mais ce qui atteint pas quand même des sommets les plus absurdes qu'on a vus à d'autres moments pour d'autres films. Enfin, en deuxième place, il y a Les Trois Fantastiques qui ne sont que 3 et pas 4, qui font 168 entrées pour 9 copies, donc une moyenne de 19, vraiment une chute vraiment lourde. On voit que c'est le début de Cannes et que les films sortent plus trop. Enfin, en troisième place, Rennes, un film dont on ne vous parle toujours pas, qui le talonne, qui fait 149 entrées pour 5 copies, donc une moyenne de 30, moyenne beaucoup plus élevée. Donc c'est un film qui a su intéresser un peu plus de gens, en tout cas.
C'est la mafia marocaine.
Même s'il est moins bien distribué. C'est la mafia marocaine. Ce soir, deux perdants de la semaine. Un, vraiment juste pour la punchline, parce qu'il s'appelle Là où Dieu n'est pas. Les spectateurs non plus, manifestement, parce qu'il fait 5 entrées pour une copie. Donc une moyenne par copie de 5, ce qui n'est pas beaucoup. Et en autre perdant de la semaine, Les Tortues, film avec Olivier Gourmet, qui a l'air d'être dans une relation homosexuelle avec un acteur anglais. Tout ça a l'air très bizarre, j'ai pas du tout très bien compris de quoi ça parlait, mais manifestement, ça n'a pas poussé les gens à aller voir ce film, parce qu'il fait 2 entrées pour 2 copies, et contrairement à ce que mon document indique, c'est une moyenne de 1 par copie et pas 2, qui m'indique 2, parce que manifestement, sur des d'aussi petits niveaux, le film français ne sait pas faire de règle de 3. Pourquoi ? Qui sait ? Je ne sais pas. En tout cas, voilà pour moi. Est-ce qu'on peut dire qu'il est... On peut vraiment dire que Olivier Gourmet est ruiné. En fait, c'est une vanne pour les gens. Hein. C'est une vanne qui a un rapport avec Couleur de l'incendie, un film dans lequel il joue et dans lequel personne n'aurait dû jouer, et parce que ça aurait mieux fait de pas exister. Voilà.
Eh bien, mieux fait de pas exister. Est-ce que c'est le cas pour le deuxième acte de Quentin Dupieux, qui est donc le film d'ouverture du Festival de Cannes hors compétition et que vous avez vu ce soir? On va écouter la bande-annonce.
Alors, l'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, David, qui est un homme très séduisant, très convoité. Mais je préfère pas vous en dire plus parce que je dévoilerai trop.
Non, pardon. L'histoire du film, c'est l'histoire de mon personnage, qui s'appelle Guillaume, qui est un banquier international très important et qui s'apprête à rencontrer le petit ami de sa fille. Et je suis désolé de te contredire, hein, mais...
Laurent.
Oui. Bonjour.
Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle le deuxième acte ?
Non.
D'accord.
En tout cas, ça va être
l'émission.
En tout cas, ça va être difficile. Quentin Dupieux, évidemment, hein, toujours très bizarre, film d'ouverture à Cannes, donc qu'on a pu voir parce qu'en fait, en réalité, il est sorti hier et que voilà. Ça raconte une histoire assez curieuse de deux personnages, enfin de quatre acteurs qui jouent dans un film, mais à moitié, et qui en fait, dans lequel la frontière entre le film et entre la fiction et la réalité est assez flou. Et en gros, le film dans lequel il joue raconte une espèce de pseudo-histoire d'amour, en gros, de Léa Seydoux, qui est amoureuse de Louis Garrel, voilà, de Louis Garrel, qui lui-même n'en est pas amoureuse, et c'est Raphaël, il essaie de mettre son pote Raphaël Quenard pour essayer de la pécho, et au milieu de tout ça se trouve Vincent Ladon qui joue son père, mais sauf qu'en fait, c'est pas vraiment ce dont parle le film, parce que le film n'a rien à voir avec tout ça, vu que c'est juste des gens, des acteurs qui s'engueulent sur les scènes qu'ils sont en train de jouer en jouant à moitié leur scène. Tout ça est très bizarre. Honnêtement, c'est très difficile d'expliquer ce qui se passe dans le film. Ça dure 1h20, c'est une comédie, il y a beaucoup de très longs plans séquences où on voit les acteurs comme ça jouer et faire ces espèces de très 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 longues scènes où l'humour passe surtout quand même par le dialogue. Et en fait, on est face à un film finalement assez, j'ai envie de dire presque classique de Dupieux, où on voit qu'il y a une grosse idée, un gros gimmick sur lequel il va partir et essayer de tirer un petit peu les ficelles pour faire valoir un propos plus ou moins clair et plus ou moins intéressant. Et en l'occurrence, je trouve que c'est formellement dans le sens d'un point de vue mécanique assez réussi. Je trouve que le gimmick est un peu lourdingue au bout d'un moment, mais en fait il y a quand même pas mal de moments où on rigole et il y a pas mal de trucs qui nous prennent un peu par surprise, qui sont un peu inattendus. C'est quand même dans le genre de film qu'il fait, c'est finalement assez habituel et je trouve assez amusant. En tout cas, ça fonctionne sur moi. Derrière, je serais un petit peu plus critique du fond, on va dire, et du propos et de ce qui se passe dans le film, que je trouve quand même plutôt... ça donne un peu l'impression que le film se prend plus intelligent que ce qu'il n'est en réalité et qu'on a quand même un peu l'impression de voir une grosse blague un peu d'initié, quoi. On a un peu l'impression de regarder une espèce de grosse private joke pour cinéphiles.
Surprenant.
Et que dans le fond... ça rend le truc amusant si on voit un peu de quoi ça parle, mais même pas, parce qu'il y a des vraies situations absurdes, il y a des vrais trucs qui à mon avis peuvent faire rire d'une manière générale, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu pénible, je dirais, un peu, et qui se la raconte un peu, qui à mon avis fait que le film est, moi je le trouve assez sympathique, je trouve que les comédiens sont bons, contrairement à ce qu'on aurait pu imaginer dans la bande-annonce, mais en tout cas les comédiens sont plutôt bons. Et que dans le fond ça passe parce que ça dure 1h20 et qu'il y a des moments drôles, mais faut pas chercher plus que ça, et dans le fond c'est un peu dommage, mais je pense que c'est mes camarades qui vont renchérir sur ça.
Valentin, qu'est-ce que tu en as pensé toi, parce que ça a l'air un peu l'enfer?
Oui, c'est un peu l'enfer. Déjà, en fait, il faut dire un truc qui est en préalable, c'est que Dupieux, il a un talent comique qu'on peut pas contester. C'est-à-dire que le film est drôle, il y a des séquences qui vont vous faire rire. C'est impossible de pas se marrer à certains moments parce que ça a l'air très drôle déjà d'être sur le tournage. Ils ont l'air de tous beaucoup s'amuser, ils ont l'air de tous beaucoup improviser, de tous beaucoup se laisser aller à des situations qui, dans le comique de situation, fonctionnent bien. Ça, c'est le premier truc et c'est le seul point positif qu'il faut sauver. Pour le reste, moi, je pense un peu de manière globale que c'est un peu le film de la trahison de classe pour Quentin Dupieux, c'est-à-dire que c'est le film qui définitivement le fait basculer de la catégorie des cinéastes indépendants un peu transgressifs à la catégorie des gros tâcherons du système, pour être honnête. Et alors il y a un effet de loupe parce qu'il est en ouverture de Cannes et que du coup on voit plein de gens se balader en robe de soirée absurde et en costard pour aller observer ce qui de fait est une pochade bien mal travaillée. Mais donc du coup il y a un effet de loupe qui lui appartient pas, mais par ailleurs il est quand même responsable d'un certain nombre de choses. Moi je trouve très dommageable qu'il en soit arrivé au stade de concasser tout ce qui faisait la spécificité de son cinéma pour ramener tout à des gimmicks, c'est-à-dire le gimmick de on est à la campagne dans des espaces indéfinis, le gimmick de les gens ont des statuts socio-économiques très bizarres et tout, en fait ils sont jamais mis en situation sociale, ils sont dans une sorte d'entre-deux, de flottement, le gimmick de la violence à un moment qui de toute façon à un moment ou à un autre arrive. Tout ça, en fait, il en fait des espèces de mèmes. C'est un cinéaste du mème maintenant. Je pense qu'il fait des espèces de blagues pour lui-même et pour quelques personnes que ça fait rire. Et effectivement, le côté initié de la chose, je te partage complètement ton avis, Laurent, sur ce point. Je pense qu'en fait, c'est un film assez cynique dans le fond et ça m'a un peu embêté. C'est-à-dire que, en tout cas, je pense que les gens qui y participent le font de manière assez cynique. C'est-à-dire que voir Léa Seydoux faire semblant d'être humilié, c'est un film sur les acteurs qui s'humilient. C'est-à-dire que c'est des grands acteurs qui viennent un peu s'encanailler en disant que finalement, la profession d'artiste est comme un peu de la merde et qu'il faudrait passer au-dessus, qui font un film réalisé par une IA et donc. Ben, du coup ils sont quand même un peu tous nuls dans ce qu'ils font, ils sont médiocres en fait, et donc il y a une séquence où Léa Seydoux passe des coups de fil à plein de ses proches et ils lui en foutent tous plein la gueule parce que ça a l'air d'être un être humain absolument horrible cette personne. Et puis ben, en fait voilà, le voir des grands acteurs qui viennent se souiller comme ça aux yeux de tous, je trouve ça vraiment cynique parce que dans le fond on sait très bien que cette critique du système elle porte pas, que le film du coup il va jamais vraiment être transgressif. Donc on est vraiment face à Vincent Lindon qui fait des blagues sur Vincent Lindon, ça m'agace un peu au bout d'un moment. Il y a des trucs qui marchent mieux que Nard par exemple est meilleur que les autres, mais il y a beaucoup de choses qui globalement sont extrêmement pénible. Les 30 dernières minutes, il essaie pas de les écrire. Et par ailleurs, je vais ajouter un dernier point qui est quand même très problématique, c'est que politiquement, le film est quand même un peu bizarre. C'est-à-dire qu'il fait des vannes à un moment que je comprends pas. C'est-à-dire qu'il fait des vannes sur les juifs parce que je pense que c'est la période et qu'il se dit tiens, c'est un peu marrant de faire une vanne sur les juifs. Vous allez voir ce que vous allez voir. Il fait une vanne sur les pauvres parce qu'on humilie un peu un comédien, un figurant. Donc un peu ce comique de classe, un peu encore une fois très 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 courageux, très péchu. Et puis il y a toute une séquence sur une vraie fausse agression sexuelle quand même de Raphaël Quenard sur Léa Seydoux. Donc ça ne manque pas d'ironie au vu des rumeurs twitteriennes du moment, mais par ailleurs je trouve ça très bizarre qu'à ce moment là en fait il veuille dénoncer, il a l'impression qu'il a envie de dénoncer un peu la tendance woke quand même. Donc soit il le fait en assumant ces propos là et ça le place quand même du côté des méchants, soit il le fait en l'assumant pas et en étant un peu un franc-tireur qui vient un peu tirer de tous les côtés et qu'on peut pas classer politiquement. Auquel cas je trouve ça vraiment très 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 peu malin. C'est à dire que voilà, Quentin Dupieux est de moins en moins impertinent et de plus en plus lourdingue. Voilà, c'est ma conclusion globalement.
Très drôle que tu mentionnes franc-tireur pour parler de sa politique. Félix, qu'est-ce que tu en as pensé ?
Ouais, tout pareil, hein. Je trouve qu'effectivement, il est en train de se construire une des carrières les plus... inintéressant du monde, quoi. Vraiment, c'est dingue comment en fait chaque film est aussi raté que son précédent et aussi inutile, parce que je trouve que c'est vraiment ça. En fait, effectivement, tu l'as très bien résumé, on rigole, il y a des acteurs que j'aime bien voir à l'écran et du coup, ils me font marrer. Je trouve que Lou Garrel est assez rigolo aussi dans son rôle, t'as cité Quenard évidemment, mais en fait, c'est quoi l'intérêt du truc, quoi, vraiment, c'est
l'argent.
Peut-être, effectivement, en plus le film a coûté extrêmement cher, genre 6 millions d'euros, enfin, un truc complètement dingue. Alors je sais pas si c'est le chiffre que j'ai vu est vrai, parce que ça vient de Twitter, donc il faut quand même se méfier surtout en ce moment, mais j'ai effectivement vu ça. Non mais surtout, en fait, un des gimmicks, moi, qui m'a vraiment vraiment énervé, c'est encore l'utilisation du méta. C'est-à-dire qu'on le sait, il a construit sa carrière là-dessus, mais il y a eu un moment où il a lâché le méta. Et ça a donné Le Dain, qui pour moi était un chef-d'œuvre et un de ses plus grands films. Et en fait là, il y revient progressivement, et complètement même dans celui-là. Ça fait penser au tout premier film qu'il a réalisé, qui est non-film, qui est pareil, un espèce de film qui se déconstruit, où c'est des comédiens qui sont directement sur un tournage. Mais dans non-film, même si le film est extrêmement désagréable, au moins il y avait vraiment quelque chose de brut. Effectivement, tu parlais de quelque chose d'un peu d'anti-système que je trouvais assez intéressant, mine de rien, esthétiquement. Là, c'est même plus le cas. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de platitude. Alors oui, c'est bien filmé, on est dans un truc de platitude formelle absolue, quand même, où tout est très beau, tout est très propre. On a même plus le côté un peu grunge de j'étalonne pas mon film, ou je sais pas, quelque chose d'un peu rebelle. Là, plus du tout. On est vraiment dans quelque chose de presque même rutilant, parce qu'il travaille un peu sa lumière, etc. Et pourquoi pas, mais comme c'était Quentin Dupieux et qui nous a habitués justement à de l'épure et qu'il en a fait un peu sa proposition, on va dire, esthétique, en fait, effectivement, je pense qu'il est en train de se conformer progressivement. Il devient de plus en plus un cinéaste français. Il prend des grands acteurs parce que tout le monde fait ça. Il va venir effectivement parler un peu de relations à l'eau de rose parce que tout le monde fait ça. Et même si tu t'en moques, en fait, ça ne fait pas de toi un grand cinéaste, ça ne fait pas de ton film un film qui est intéressant. Et effectivement, d'essayer d'instaurer comme ça, et en usant du méta pour potentiellement te cacher, d'instaurer des critiques un peu acerbes sur la cancel culture, le wokisme, etc. Et en fait, de quelque part renvoyer tout ça du domaine de la fiction, parce que c'est ce que fait le film, et bon, j'en dévoile pas trop, mais en fait, on se rend vite compte que tout ça est un peu une espèce de mascarade parce qu'on est dans un film. Et bah, quelque part, je me demande effectivement à quoi ça sert. Enfin, je veux dire, du coup, quoi ? C'est-à-dire que c'est pas la réalité, mais enfin, c'est quand même très violent comme propos, c'est super bizarre, parce qu'encore une fois, il y a des gens qui potentiellement peuvent souffrir de tout ça. Donc bon, j'ai pas envie de rentrer dans une critique hyper politique machin, mais juste je comprends pas pourquoi il s'amuse à faire ça, rire de ça, pourquoi pas, mais je trouve que le procédé est un peu nauséabond effectivement, et pas clair du tout, et peut-être qu'il va venir chercher à déranger, mais encore une fois, déranger pourquoi, parce que si c'est pour finir ton film sur juste un travelling pour montrer que tout ça c'est du cinéma, encore une fois, va te faire foutre, quoi, vraiment, genre, quel intérêt, c'est fou.
Eh bien, c'est unanime et crescendo, vous n'aimez pas le deuxième axe, donc on ne vous le recommande pas. En revanche, on va à présent parler d'un petit truc en plus, le phénomène d'Artus.
On est en vacances ou on n'est pas en vacances?
Tiens,
Allez, on se casse. Allez. Merde, il y a plus la bagnole.
T'es garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi?
T'as des nouvelles?
Eh bien, donc, on va parler de ce grand phénomène. Et Félix, la main est re à toi. J'espère que tu t'es calmé. J'espère que tu as plus d'énergie positive, de bienveillance pour parler de ce projet.
Non, mais. De quoi? C'est parce que je viens de sortir du deuxième mag. Donc, du coup, il est encore très frais.
Moi, j'adore ce genre de moment. C'est génial. Donc, parle-nous. Donc, de quoi ça parle, un petit truc en plus?
Alors, un petit truc en plus, c'est du coup un film d'Artus, qui est quelqu'un que je ne connais pas, mais que visiblement beaucoup de gens connaissent. Ouais. 2 millions de personnes et quelques. Et ça raconte du coup l'histoire de Clovis Cornillac et son fils, du coup, qui est joué par Artus, qui, pour échapper à la police après un braquage, se retrouve en fait en couverture dans un espèce de. Enfin, ils montent dans un car, justement, rempli d'handicapés, d'une association qui les emmène à la campagne pour faire des activités. Et il se trouve qu'en fait, Artus va du coup jouer le rôle. Il va commencer à se mettre dans la peau d'un handicapé pour faire genre. Il se fait passer grosso modo pour un handicapé qui est pas venu, qui arrive en retard en fait au moment justement de rentrer dans le bus. Et du coup Clovis Cornillac est un peu obligé de les accompagner et se fait passer pour son éducateur. Et voilà. Et en fait le point de départ de l'histoire est extrêmement bizarre, parce que du coup rien que ça, vous sentez déjà un peu le film moyen, qui ne tient pas du tout sa promesse scénaristique. Et c'est le cas effectivement, c'est-à-dire que c'est un peu n'importe quoi, c'est écrit un peu avec je ne vais pas dire finir ma phrase
avec les pieds.
Voilà, merci. Et surtout de manière générale, tout est très déréalisé, c'est-à-dire que l'objectif c'est pas du tout d'essayer d'ancrer le film dans une quelconque réalité de qu'est-ce que c'est que faire un braquage, qu'est-ce que c'est que d'être cherché par les flics, qu'est-ce que c'est ensuite de faire de la prison. Bref, tout est voilà, encore une fois, on est dans le monde fantasmé de d'Artus. Mais en fait, je pense que je m'attendais vraiment à une immense merde, et du coup, le film n'a pas du tout été désagréable chez moi, et c'est pour ça que je vais laisser mes camarades après en dire un peu plus de mal. C'est-à-dire que j'aimerais sauver 2-3 trucs quand même. Je trouve les comédiens très convaincant, genre ils sont très bien castés. Je trouve que vraiment, moi qui parle des comédiens, c'est vraiment que je pense que le film est nul, hein. je trouve vraiment qu'ils sont hyper touchants, hyper ils croient vraiment à leur personnage. Je trouve que vraiment ça c'est hyper hyper fort. Même Clovis Cornillac, qui joue quand même un personnage un peu stéréotypé, et bah je trouve que mine de rien, dans le côté un peu brut, il s'y retrouve, et je trouve que c'est relativement crédible. Je trouve aussi que le traitement en fait des handicapés dans le film, mine de rien, est assez chouette. C'est-à-dire que il essaye pas d'en faire trop. On essaie juste de nous les poser pour les faire exister. Et je trouve que ça, c'est pareil. Je sens pas de malhonnêteté de sa part pour essayer justement de faire un petit peu pleurer les gens, etc., etc. Donc ça, je trouve ça assez chouette, c'est pareil. Le film est pas très drôle par contre, et ça pour une comédie c'est un peu, alors peut-être que la salle aussi réagissait pas, et je pense que c'est le genre de film qui, si t'as une énergie de salle qui emporte le morceau, à mon avis tu te mets facilement à rigoler. Mais moi j'avoue que de mon côté ça a pas complètement marché. Il y a 2-3 petites blagues qu'on fait mouche, mais voilà, grosso modo c'est pas non plus la fête. Et étonnamment, même si on est quand même sur du stade plus publicitaire que de cinéma, je trouve qu'il y a certaines petites tentatives de faire de la machinerie un peu complexe et de faire des plans qui ne sont pas non plus complètement, qui ressemblent pas complètement justement aux comédies françaises, on va dire lambda, caméra à épaule avec Christian Clavier. Et en fait justement je pense que c'est ça un petit peu la fin de ma critique. C'est à dire que moi qui suis habitué, parce que je regarde pas beaucoup de comédies françaises, qui suis habitué à voir des trucs vraiment merdiques avec Clavier qui est border raciste, enfin border n'importe quoi, complètement raciste, en fait de voir d'un coup une espèce de comédie un peu feel good qui te prend pas non plus complètement pour un con, mais qui n'en fait pas non plus complètement un bon film pour autant, en fait quelque part ça m'a pas fait passer un moment désagréable. Voilà, ça va être ça.
Wow.
Vous pouvez aller voir un petit truc si vous voulez pas ne pas passer un moment désagréable, mais c'est un peu tout. C'est à dire que en vrai c'est quand même très très faible, et je serais malhonnête de dire que c'est un bon film.
Donc on est sur la compétition de dénivellement par le bas, hein, de ce que tu viens de faire,
mais en fait non, mais c'est juste, si je suis honnête avec moi-même, juste ça a pas été désagréable comme potentiellement les prochains films dont on va parler. Donc c'est pour ça. Voilà,
mais restez sur Radio Campus Paris. Alban, dis-nous tout.
Moi je suis un peu du même avis que Félix, et je pense qu'on va y aller crescendo en fait dans l'attaque virulente sur le film, et on va finir par Laurent
comme le
toute la soirée quoi.
Mais en fait là où je suis d'accord avec toi Félix, c'est qu'effectivement il arrive à bien traiter je sais pas si c'est son sujet, mais en tout cas le handicap est bien traité. C'est-à-dire que le film est et n'est pas que bienveillant, c'est-à-dire qu'il est, il est pas non plus moralisateur, il donne pas de leçons.
Non, bien sûr.
On rigole jamais en fait des personnes qui sont handicapées, des acteurs qui sont handicapés. Et justement, j'ai aimé aussi cette inversion des rôles où il le découvre assez vite dans le film, et qu'il lui apprenne lui à essayer de pas être démasqué, de jouer mieux un petit peu l'handicapé. Je trouvais ça plutôt malin. En fait, je trouve ça plutôt malin de la part d'Artus, parce que je m'attendais pas à ça. Et encore une fois, c'est du nivellement par le bas. Mais effectivement, je m'attendais tellement aussi une bouse border. Je me suis dit que ça allait être une catastrophe. Et finalement, certes, je peux pas dire que c'est feel good, mais en tout cas c'est pas malsain, c'est pas malveillant. J'ai pas passé forcément un bon moment, mais j'ai pas passé un moment désagréable. Ensuite, Justement, cette qualité du film, elle en fait aussi son, ses faiblesses. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'Artus s'est laissé un petit peu embarquer par cette idée de cause, de défendre en fait, le fait d'avoir des acteurs handicapés, le fait de les voir dans le cinéma, qu'il en a complètement oublié son scénario. Et je pense qu'il s'est vraiment pris là-dedans, mais un petit peu de manière consciente, quoi. Enfin, inconsciente, pardon, frontale. C'est-à-dire qu'il a délaissé l'histoire de braquage, l'histoire de fuite, l'histoire de refuge, en fait, dans ce camp de vacances. Et je trouve que le film aurait pu être bon vraiment si on continuait l'histoire qu'il y avait en parallèle entre Clovis Cornillac et son père, qui essaie d'échapper à la police, qui avait une course poursuite, qui avait des flics qui arrivaient, qui étaient cachés par les vacanciers. Enfin, ça aurait pu être vraiment très très il y avait plein d'idées de scénario en fait qu'il a pas fait. Il y a aussi un deuxième aspect du film que je vais sauver, c'est que je trouve que l'émotion, elle est toujours là où on l'attend pas, c'est-à-dire au moment où on va parler des familles, où on commence, on pense que ça va commencer à être compliqué, mais jamais de musique. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez sincère, oui, assez honnête dans son propos, et je trouve que c'est bien. Et par ailleurs, je trouve que l'émotion, elle vient aussi beaucoup des encadrants, et je trouve que c'est aussi un film qui fait la part belle aux encadrants, aux éducateurs, et qui laisse la place vraiment à cette émotion là et de dire que de les saluer et de rendre un petit hommage à ces métiers là après voilà, le film scénaristiquement est un naufrage, et je sauve les acteurs, moi, handicapés, mais pas du tout le reste du casting. Clovis Cornillac, j'en peux plus.
Eh bien, on n'en peut plus de Clovis Cornillac. Et toi, Laurent, de même?
Eh ben non, moi, Clovis Cornillac, ça va. C'est pas ça qui m'a dérangé dans le film. Je trouve qu'en effet, je vais être d'accord avec vous, hein, les acteurs sont très bien castés, ils sont tous très bons, même les autres acteurs. On sent que c'est là, Artus, c'est tout ce qu'il a fait. Globalement, il n'a rien fait d'autre. Il s'est pas emmerdé. Donc du coup, bah, il n'y a rien, en fait. Hein, c'est une catastrophe totale. Il y a des moments de gêne très très lourd, on comprend rien à ce qui se passe, les personnages n'ont aucun intérêt, il y a des scènes ultra gratuites, il y a des incohérences invraisemblables. Globalement, c'est quand même un film d'une heure et demie qui m'a paru très long et très pénible. Je comprends pas comment ce truc a pu passer la barre, en fait, du film. C'est-à-dire, est-ce que Artus est si connu que ça qu'on lui a laissé passer n'importe quoi au point qu'il sorte un scénario que manifestement personne n'a relu, peut-être?
Alors il est très très connu pour le coup, sa tournée elle est complète partout, il y avait le QR code pour réserver pour le film à la fin
mais
de chaque séance.
Ah,
bah, oui, à la télé aussi. Enfin,
le mec est peut-être très connu, et en fait je comprends, il a une sorte de sympathie lui-même, il est assez bon. Il y a vraiment des trucs qui fonctionnent, hein, dans son film, on va pas se mentir. Et on sent qu'en fait lui-même il est acteur, que c'est vraiment un acteur qui se filme, qu'il l'aime. Qu'il ne s'intéresse qu'à ça, en fait, qu'il ne s'intéresse qu'à filmer des acteurs et des vannes, et point. Et les vannes sont nulles globalement, hein, c'est souvent très très compliqué, et du coup, bah, ça marche pas parce qu'en plus il n'y a pas de scénario, on n'est pas attaché au personnage, il n'y a rien qui se passe de manière vague, ne serait-ce que vaguement intéressante. Il y a des trucs qui sont introduits, mais en fait c'est jamais vraiment payé. Il y a des personnages qui arrivent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, ça n'a plus aucun sens. Vraiment, je ne comprends pas comment est-ce qu'on s'est pu passer la barre de « Ah, cool, ton scénario, on va le filmer », tu vois. Je trouve ça invraisemblable. Je pense que personne ne l'a relu, je pense que tout le monde s'en cogne, et ça me fait beaucoup déprimer sur l'état du cinéma, donc n'allez pas voir ça si vous voulez pas déprimer.
Bon, bah super, bah maintenant on va changer de genre complètement pour aller parler de Rokia, de Saïd Belktibia.
Madame ? Oui, t'es vivante.
C'est une grenouille très dangereuse, faut pas la toucher, ça soigne tout.
Bon, pardon, Valentin, est-ce que tu peux nous parler de Rokia, qu'est-ce que ça raconte? Ça a l'air d'être un film de genre.
Oui, c'est un premier film et un film de genre de Saïd Belktibia, qui raconte l'histoire de Nour, qui est une jeune femme, enfin une mère, elle, maman d'un jeune enfant, mais globalement, enfin d'un jeune ado, qui vit dans une cité et qui vit globalement du trafic d'animaux. Des nouveaux animaux de compagnie, comme on dit, administrativement parlant, c'est-à-dire globalement des grenouilles toxiques, des serpents, des dragons de Komodo, et qui, du jour au lendemain, va avoir un petit peu un souci parce qu'elle grenouille un peu dans des milieux de marabouts, tout ça. Elle essaie de développer une application pour le Doctolib du marabout, je cite, et donc elle va se retrouver dans une espèce d'exorcisme qui tourne mal, et donc va se déclencher contre elle une cabale, une chasse aux sorcières, parce qu'elle sera désignée comme sorcière, et donc le film va la présenter comme la méchante, avec... moult assertions politiques et symboliques, comme vous l'imaginez bien. J'ai un gros problème avec le film, c'est qu'il est vraiment écrit, là je suis désolé, je vais le dire, il est vraiment écrit avec le cul. Donc, globalement avec tout ce qu'il faut pas, et dans l'ensemble.
Sauf les mains.
Voilà, donc, parce que bon, la phase d'exposition est un peu trop longue, mais ça c'est pas très grave, il y a des effets un peu ridicules dès le départ, on comprend que ça a mal se passer quand ça commence à sortir des grenouilles venimeuses de son estomac, dans des petits pochons. On se dit, bon, ça va mal se mettre. Et puis effectivement, après, ça devient une sorte de thriller un peu très actif pour le coup. J'aime bien la mise en scène, il y a quelques money shots qui sont assez sympas, bon, mais c'est vraiment bardé d'invraisemblance, ça devient un peu n'importe quoi. Et donc là, on rentre dans une espèce de sainte trinité des sujets foireux, c'est-à-dire le folklore religieux un peu essentialisé parce qu'ils sont tous dans une cité, ils sont tous visiblement plus ou moins attirés par des religions qui les poussent à faire des trucs pas ouf ou par des marabouts pour tout un tas de trucs. Donc, en fait, j'imagine que si t'habites dans une cité, t'es globalement marabouté, hein, ou sous le
goulag.
Voilà, un peu goulag, on va pas se mentir. Tu rajoutes à ça les réseaux sociaux, figurés de manière très, 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 très.
C'est Gérard Larcher qui a écrit le film.
Figurés de manière très subtile, je ne le citerai pas. Figurés de manière très subtile par l'apparition d'écrans TikTok, de screen TikTok, vraiment, pendant des secondes et des secondes et des secondes. Et le propos politique, je le disais, un peu foireux sur le mode sorcière. Voilà, Mona Chollet, si tu es parmi nous, tape deux fois. Voilà. Je me suis dit, en plus, le film débute sur une sorte de semblant de documentation qu'il avait vraiment taffé son sujet. J'étais un peu content par le petit mashup du début qui présentait tout un tas d'historiques sur la figure de la sorcière. Je suis dit, ok, peut-être qu'il a travaillé. En fait, non. Figure très bête du pouvoir féminin. Golshifteh Farahani est complètement à côté de ses pompes. C'est n'importe quoi.
C'est le premier film de Jérémy Ferrari, on note.
Voilà, j'allais y venir, malheureusement. Bah, on reviendra. Peut-être que ça se passera bien. J'ai beaucoup de sympathie pour ce garçon et pour sa carrière, pour sa trajectoire de vie. Donc, j'espère qu'il fera quelque chose de mieux. Mais là, il est dirigé n'importe comment. Tout est immonde. Elle crie. Lui, il est silencieux. C'est ridicule. Bref, je suis pas resté jusqu'à la fin, ce qui est quand même rarissime pour moi, voilà. Donc, ça résume un peu le truc. Je pense que j'avais rien à attendre des 20 dernières minutes, donc je me suis dit.
Ah, des 20 dernières quand même.
Oui, 20 dernières sur un film d'une heure 30. Non, mais effectivement, à un moment, quand ça se met en place, tu sais que ça n'ira pas beaucoup plus loin, donc c'est terrible. Voilà.
Félix, est-ce que tu as fini le film?
Alors, oui, j'ai fini cet après-midi et je me rappelle déjà plus de la fin, ce n'est pas une blague. Donc, je pourrais même pas venir à ton secours.
Bah, tant non, de professionnalisme autour de cette table.
Ouais, non, mais je sais pas ce qui s'est passé.
La vie est courte.
Ouais, c'est ça, exactement. C'est un peu une catastrophe. Enfin, on va pas se mentir, comme à chaque fois qu'on essaie de faire du genre, hein, malheureusement. Je sais pas d'ailleurs ce qu'a le cinéma français avec les animaux, parce que visiblement, entre la nuée, le règne animal, même Vermine, il y a un truc de. Enfin, faut que ça soit rattaché à la nature, parce que sinon, c'est compliqué, on n'arrive pas à se financer. Je sais pas. Bon, mais en tout cas, effectivement, ça part un peu dans tous les sens, et je pense que c'est un des gros problèmes du film, c'est-à-dire que il y a, en fait, c'est un peu, je trouve le significatif du premier film qui veut faire plein de trucs et qui du coup n'a pas réussi à vraiment traiter son sujet et traiter même juste le folklore visuel de ce qu'il voulait. Potentiellement mettre à l'écran, typiquement les animaux, en fait pourquoi pas, moi je trouve que c'est assez intéressant.
Il y a une scène avec un dragon de Komodo, elle est vachement bien.
Ouais, et oui ça, et même moi je trouve que tu vois, quand la scène où elle a les grenouilles dans le ventre, ouais. Et qu'elle est ça, en fait, non, ça marche un peu, enfin je trouve qu'il y a des trucs qui sont, après moi je suis pas très très fan des insectes, donc forcément ça marche à moi, mais voilà, je trouve qu'il y a des concepts qui sont intéressants, et très vite on bascule dans complètement autre chose, dans la sorcellerie, du marabout, et là d'un coup c'est beaucoup plus baroque, c'est beaucoup plus chargé. Moi j'avoue que personnellement ça me touche beaucoup moins déjà en termes d'esthétique. Mais surtout, il y a quand même un peu des trous partout, on n'y comprend pas grand chose. Je trouve que le fait de créer ce truc de Doctolib des marabouts, en fait, ça je sais pas, démystifie complètement tout. Enfin, je trouve que vraiment, d'un coup, ça le rend extrêmement banal quand tu es allé chez le médecin, alors que clairement, tu vois bien que les gens ressortent pas de là comme s'ils allaient chez le médecin.
Donc, je pense que c'est littéralement interdit par la loi, c'est là où le film s'arrête.
Ouais, en plus, enfin, bon, bref, encore une fois, un truc complètement déconnecté de la réalité. Le seul petit truc, effectivement, que moi je sauverais, en dehors du grand n'importe quoi de l'ensemble, c'est l'atmosphère, en fait, très grunge urbaine, que je trouve assez chouette. Pas forcément dans la mise en scène, parce que moi, les caméras épaules maintenant j'en peux plus, mais je trouve, voilà, qu'il y a un côté dans ces lumières qui bavent, côté un peu granuleux de l'image et tout, que j'ai trouvé assez sympathique, c'est tout.
Voilà. Eh bien, super, encore une fois un projet que vous ne soutenez pas, on est sur une soirée assez compliquée. Et bien maintenant on va passer aux séries, peut-être qu'on aura plus de chance, mais mon oreille me dit que non. On va parler de Bouchon, une série créée par Eleonore Costes qui est disponible sur Arte. Cost, pardon. On écoute la bande annonce.
C'est super dur, non? Écoute, c'est toi qui m'as fait chier avec ton yoga, ton moment présent à la con, donc tu le fais.
Mais attendez, c'est elle qu'il faut prendre en photo, hein. C'est elle la future vedette. Hein.
J'y arrive pas, j'ai trop de trucs en tête là.
Ça va vraiment faire, je pleure dans les chaudières et tout, mais je viens juste d'apprendre que mon père.
Et bien donc, Bouchon, Alban, de quoi ça nous parle?
Bouchon, ça nous parle de Bouchon, c'est-à-dire le personnage interprété par Eleanor Coste, qui est en fait une actrice de petites vidéos YouTube, un peu comme le personnage d'Eleanor Coste, et qui va s'apprêter à jouer dans un film, dans un futur proche. Et ça raconte en fait la relation qu'elle a avec ses parents et sa sœur dans une famille dysfonctionnelle. Et en gros, c'est à peu près tout. Le premier épisode, on apprend que son père a un cancer. Et c'est comment voilà, la famille va essayer de fonctionner tout en réglant chacun leurs histoires. Bon, c'est une catastrophe. Voilà. Je n'arrive pas à pitcher plus que ça la série. C'est-à-dire que c'est une série ultra bruyante. Vraiment, okay. Ça hurle dans tous les sens. Il ne se parle pas, il hurle, mais c'est tellement caricatural que tu n'arrives pas du tout à y croire une seule seconde. Je veux bien croire que la famille d'Emmanuel Coste, Eleanor Coste, soit dysfonctionnelle. Et
c'est sa vraie sœur qui joue sa sœur dans le film.
D'accord, c'est sa vraie sœur. Bon, bref. Et apparemment, elle a mis quelque chose sur Instagram où les acteurs qu'elle a choisis pour ses parents ressemblent beaucoup à ses parents. Enfin, c'est quelque chose d'assez autobiographique, j'ai l'impression. Mais ça ne fonctionne pas parce que je trouve ça à la fois... très peu subtil, c'est-à-dire qu'elle essaye de reprendre un peu des idées que pouvait y avoir dans Fleabag, par exemple, avec une famille dysfonctionnelle, avec la relation avec sa sœur, qui était elle aussi compliquée, mais elle n'a pas cette intelligence-là, elle n'a pas cette subtilité, on n'a pas un jeu d'acteur non plus qui permet en fait d'accéder à ce genre d'émotions-là, et donc du coup tout tombe un petit peu à plat, et c'est vraiment dommage. Et en plus, le problème, c'est que je disais un peu ça sur le cinéma américain, comme quand je parlais de Sweetest, etc., c'est que j'ai l'impression que on assiste à un cinéma ou une série indépendante française où les gens sont dysfonctionnels de la même manière, où les gens sont insupportables de la même manière, s'ennuient de la même manière, et c'est, moi ça me rend dingue. Et par ailleurs, c'est une sorte de prétention comme ça, c'est-à-dire qu'on s'engueule sur du Chopin, tu vois, c'est toujours le bon livre qui est sorti dans la bibliothèque, toujours la bonne musique qui est mise dans mon original. Et du coup, je trouve que c'est un petit peu poseur et un petit peu insupportable de voir une espèce de cliché comme ça de réalisatrice et de cinéma qui essaye d'emprunter ce qu'elle trouve de mieux en fait, de ce qui se fait de mieux dans la série ou dans le cinéma, je pense à Fleabag, et qui arrive à en faire complètement rien. Donc je trouve que ça ne va pas du tout.
Bah écoute, merci Alban. Laurent, est-ce que tu sauves cette série? Est-ce qu'on va parler que de choses qu'on n'aime pas ce soir?
Non, voilà, on va faire simple. Moi je crois que j'ai pas vu de truc aussi bruyant et inutile depuis Le Fureur en Folie de Philippe Clerc, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment les gens passent leur temps à hurler. C'est incroyable, c'est vraiment, j'ai l'impression de voir une... On dirait une comédie de cinéma pied-noir vaguement érotique des années 70, quoi. C'est vraiment invraisemblable. C'est sous-genre qui non, existe, là, sous-genre qui existe réellement, hein, avec des films qui existent vraiment. Non mais Philippe Clerc, déjà, je
moi,
vous
ça me rappelle un éléphant qui trompe, ça trompe énormément ce genre de choses. Mais ça c'est bien.
Oui, mais ça c'est bien. Oui. Non, mais je vous conseille de regarder la cinématographie de Philippe Clerc avec des films comme Rodriguez au pays des merguez ou Arrête de ramer, t'attaques la falaise, des trucs comme ça. C'est incroyable, ça existe. Bref, je préfère parler de Philippe Clerc que ça parce que ça, franchement, je trouve ça vraiment faible. Il y a juste des gens qui sont là, qui hurlent, qui ont des problèmes de gens, bon bah, qui ont du blé, ce qui me pose pas forcément de problème sur le principe parce que c'est vrai qu'ils ont tous l'air d'avoir plutôt du blé, même s'ils font des métiers.
Oui, magistrat, le papa.
Oui, le père est ancien magistrat. Il y a une des la sœur est avocate, elle est actrice, mais enfin, elle a quand même une carrière qui fonctionne un peu, en tout cas. Bref, il y a ce truc, espèce de petit questionnement pseudo-métaphysique bidon autour de ses relations merdiques avec sa famille et avec sa target, quoi, globalement. Enfin, cette espèce de sous-fausse target, ça marche pas du tout, et franchement, on s'en cogne. Je pense que ça aurait pu être un peu plus intéressant parce que, bon, là, il y a pas beaucoup d'ambition, mais ça pourrait rester sans ambition si c'était un peu mieux écrit. Là, vraiment, il y a rien. La fin, ça n'a aucun sens. Moi, je suis quand même allé jusqu'au bout parce que je suis un jeune.
Pourtant, c'est des épisodes de 14 minutes.
Je suis un jeune sérieux, c'est des épisodes d'un quart d'heure max. Ouais. C'est terriblement ennuyeux et même souvent assez pénible avec des personnages qui sont juste bêtes et qui font n'importe quoi.
Mais c'est vrai que le mot pénible correspond bien à la
fin. J'ai un peu de mal en fait à comprendre l'intérêt de se dire on va mettre en scène des gens qui prennent des mauvaises décisions tout le temps et qui sont insupportables en plus, comme si ça donnait une espèce de cachet de vérité parce que voilà, les gens intelligents ou les gens un peu sérieux qui font pas n'importe quoi, c'est pas intéressant, quoi. Mais alors qu'en fait je trouve que ça caricature complètement le propos et que ça rend le truc globalement hyper plat et d'un ennui total, surtout que bon bah quand on regarde la fin on voit bien qu'elle sait pas comment finir et qu'elle fait n'importe quoi, donc
c'est provoque.
Vas-y, excuse-moi.
Non, j'ai l'impression que tu résumes le cinéma de Woody Allen dans certaines manières de t'exprimer là.
Bah, le cinéma de Woody Allen, au moins, il y a
des bons dialogues.
Il y a une sorte de charme, il y a un côté un peu avec des bons dialogues. C'est... Alors, je parle... c'est à l'ancienne, hein, c'est très vieux. Il y a un truc aujourd'hui.
Ça sent la naphtaline.
Voilà.
Oui, non, mais vous avez quand même pas acheté Woody Allen sous le train. Non, est disparu depuis 15 ans. Non, on va bien le retrouver un jour peut-être.
Mais je veux dire, Woody Allen, Woody Allen, il a fait des très bons films. Enfin, là, c'est autre chose. Là, vraiment, c'est. En fait, je comprends. En plus, la comparaison n'est pas si débile parce que tu vois bien qu'on essaie de faire des trucs avec des petits enjeux personnels, avec des trucs qui, en fait, sur le papier, en effet, sonnent un peu comme du Woody Allen, mais on en est à des années-lumière. C'est-à-dire que c'est quoi ? C'est un éléphant qui essaie d'imiter Woody Allen, un éléphant qui hurle ou qui barille toute la journée. Ce qui rend tout ça vraiment très pénible. Donc, même si j'aime beaucoup Arte, même si j'ai plutôt de la sympathie pour une fille comme Eleanor Cost qui a une carrière qui vient d'Internet, qui vient du Visiteur du Futur, de trucs de web-série que moi j'aimais bien, là vraiment, c'est... Non, ça va pas quoi, désolé.
Eh bien écoutez, le cinéma français se porte mal cette semaine. On va espérer que du côté de Cannes, ça va mieux. On va écouter maintenant une interview de Jonathan Millet, qui est le réalisateur des Fantômes, ouverture d'une des sélections de Cannes cette année. La semaine de la critique, merci. Et puis on vous retrouve juste après. Ah bah pardon, bah directement comme on aura le débrief de Cannes de Imen, Manon et Yuri. Donc bah écoutez, bonne écoute et on va écouter ça avec attention.
Donc une partie d'Extérieur Nuit est à Cannes en ce mercredi 15 mai. C'est comme l'année dernière, donc Imen, Manon et moi-même sommes fidèles au poste. On a déjà vu des films, pas forcément tous les films qu'on avait voulu voir, mais du coup on va un peu vous parler des films qu'on va voir avant de vous parler des films qu'on a vus. Petite pirouette rhétorique. Manon, qu'est-ce que tu vas voir et de quoi as-tu particulièrement hâte dans ce festival ?
Alors donc, moi aujourd'hui j'enchaîne sur l'ouverture d'Un certain regard. C'est un film islandais. Je ne vais pas dire le titre en islandais, mais je crois qu'en c'est When the Light Breaks.
Quand perce la lumière du jour, ouais, je pense que c'est ça le.
Il paraît que. Enfin, je ne sais pas, ça a l'air d'être une chronique sur l'amour, un peu façon Romère. Moi, ça me dit bien. Et ensuite, j'enchaîne sur le film de Magnus Van Horn. Pareil, donc je ne me souviens pas le titre, je ne sais plus si c'est un titre anglais ou suédois. Bref, il y a donc un réalisateur suédois qui avait fait Sweat, c'était son premier film sur une influenceuse.
Sur une influenceuse, absolument. Ah bah tiens, c'est ça, voilà, tout se recoupe. Petit teaser sur le film qui vient.
Ouais, et que j'avais, moi, pour le coup, celui-là, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Donc je suis assez curieuse de découvrir ce film ce soir. Et puis c'est tout pour aujourd'hui, mais après il y a plein de choses cool qui arrivent. À noter que la billetterie est moins chiante que d'habitude, donc
mais oui, on a plus de choses cette année que l'année dernière. On est assez content.
Le film de Coppola et tout.
Bah ouais, comme quoi, ça on vous en parle. Alors je fais du coup un petit point pour celles et ceux qui nous écoutent, qu'on va faire des contenus quotidien à la fois vidéo et audio sur les films qu'on a vus. Ça va être des petits formats, ça va être des petits débats, mais on va notamment pouvoir vous parler du Coppola à la sortie de la séance, je l'espère. En tout cas, on sera équipé pour. Imen, toi, tu vas voir ce soir un film dont tu as très hâte.
Oui, qui est le Sophie Filière, Ma vie, ma gueule avec Agnès Jaoui. Donc, c'est un film qui sort post-mortem, vu qu'elle est décédée l'année dernière.
Et qui a été terminé par sa fille Agathe et son fils Adam.
Exactement. Que j'attends. Ensuite, bah, comme toi, je vais voir le Magnus Van Horn qui s'appelle The Girl with the Needle. Voilà. En termes d'attente de ces prochains jours, il y a le Nabil Ayouch, Everybody Loves Touda, et Au Canada de Paul Schrader, et j'espère Bird d'André Arnold, qui pour le coup, moi, est ma plus grosse attente de ce festival-là.
Eh bien, il y avait des places pour le film.
mais oui, il y a quand même plus de places que les années précédentes, mais là, il y a des belles choses quand même qui se profilent.
Et pour ma part, également le film de Paul Schrader, évidemment le film de Francis Ford Coppola, qui a l'air d'être à la fois un chef-d'œuvre et un nanar. Je pense que ça va être un diagramme de Venn assez curieux entre les deux, mais en tout cas beaucoup de choses intéressantes. Une autre ouverture qu'on a pu voir pour le coup, qui s'appelle Les Fantômes, réalisée par Jonathan Millet, et dont on vous propose une interview juste à la suite de ce vrai-faux duplex quasiment en direct. Donc j'ai pu rencontrer ce matin Jonathan Millet, qui m'a parlé du coup de son film. C'est un premier film, un thriller qui sort le 3 juillet, qui parle d'un jeune réfugié syrien qui traque les criminels de guerre syriens, en fait, qui vivent en fait de manière complètement anonyme, également en tant qu'exilé dans la société européenne. Donc ça part de faits réels, entre guillemets, d'un phénomène réel. Et il en a fait une fiction et il nous en parle très bien dans l'interview qui suit. Mais nous, on sort du premier film de la compétition. C'est un film d'Agathe Ridinger, je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Premier long métrage également, qui s'appelle Diamant Brut. Manon, est-ce que tu peux nous dire, alors sachant qu'on vient de le voir, est-ce que tu peux nous dire en quelques phrases de quoi ça parle, vraiment de manière très sommaire?
Est-ce que tu as dit que c'était en compétition officielle?
Oui, oui, j'ai dit que c'était l'ouverture de la compétition officielle, absolument.
Je ne t'écoutais pas. Ça arrive. Donc, ce long métrage, il parle d'une jeune femme qui s'appelle Liane, qui vient d'un milieu social un peu compliqué, mère défaillante, elle a un peu sa petite sœur à charge, etc. Et elle, elle rêve de devenir influenceuse, notamment pour pouvoir faire de la télé-réalité. Et elle va réussir à décrocher un casting pour une émission qui tourne à Los Angeles qui s'appelle Miracle Island.
Qui est une sorte d'ange de la télé-réalité, ouais. En tout cas, c'est censé être ça.
Et je vais pas spoiler la fin, mais c'est donc un film sur l'influence et la télé-réalité via un portrait de cette jeune femme.
Et notamment sur l'obsession de l'image, en fait, puisque il y a justement, tu disais qu'elle vivait dans un milieu social plutôt défavorisé. Et du coup, il y a cette espèce de fantasme qu'elle a de s'en sortir par l'image, par son look, par la manière dont elle va avoir des followers, puisque plus les gens l'aiment, plus elle pense pouvoir s'en sortir. Manon, en quelques mots, qu'est-ce que tu en as pensé?
C'est vrai, c'est vraiment dur, parce que vraiment, on en sort il y a 5 minutes.
Mais c'est ça, Cannes.
Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? En fait, ni beaucoup de bien, ni beaucoup de pas bien. En fait, je suis un peu...
C'est donc un film mais.
En fait, plus le film avançait, plus je l'ai trouvé bon. Le sujet, j'étais super emballée. Bah, comme j'ai dit, moi, j'avais adoré le film de Magnus Van Horn sur ce sujet-là. Mais je trouvais que lui, avec ce sujet, il arrivait vraiment à utiliser ce truc de l'influence et tout ça. Pour le retranscrire à la mise en scène, il y avait vraiment, je trouve, une réflexion là-dessus, ouais. Que là, je trouve, il n'y a pas du tout. En fait, ouais. Au-delà du prétexte de « elle veut... » percer dans l'influence et faire de la télé-réalité. Après, c'est pas du tout incarné. Elle a quelques conversations avec ses amis, avec sa mère et tout là-dessus. Mais je les trouve un peu exposés de qu'est-ce que c'est que l'influence, qu'est-ce que c'est. Enfin,
c'est très explicatif.
C'est très
en
explicatif,
fait.
Ouais. Un peu didactique et tout. Je trouve ça un peu dommage sur ce genre de sujet. L'actrice, au début, j'étais archi pas convaincue par sa performance, mais je pense qu'il y a peut-être aussi un petit problème d'écriture où au début, on a un peu du mal à rentrer en empathie avec elle, alors que c'est un personnage très, c'est un peu une espèce de pas d'hymne à la cagole, mais une espèce de célébration de ça. Mais la façon dont était écrit son personnage, moi, au début, vraiment, j'avais du mal à entrer en empathie avec elle. Après, plus le film avance, plus... je trouve vraiment l'actrice est forte parce qu'elle devient genre hyper vulnérable. Et elle fait un truc, ça m'a un peu fait penser à la performance, bon, en moins impressionnante, mais de l'actrice de How to Have Sex, où vraiment, tu as une espèce de trajectoire comme ça, où elle devient de plus en plus vulnérable.
On pense pas mal à How to Sex d'ailleurs pendant le film, globalement.
Complètement, mais quand même avec un propos qui est quand même beaucoup moins intéressant, je trouve. Enfin, en tout cas, qui.
Le film est moins viscéral, en tout cas, c'est sûr.
Qui aurait pu être très intéressant, mais un peu moins. Je sais pas, au-delà de ce portrait de femme, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion derrière sur justement ce que tu disais, sur l'apparence et tout ça. Enfin, si, on comprend à quel point ça brise des jeunes femmes et tout ça, mais. Je sais pas, il m'a manqué un petit truc.
Et tant que ça en même temps, c'est là où le film est un peu ambigu.
Vrai, on spoil pas.
On spoil pas.
Ouais.
Imen.
Personnellement, c'est un peu comme vous. Je pense que je suis dans l'entre-deux où à la fois, je trouve qu'il y a vraiment des partis pris qui sont intéressants. Je trouve qu'il y a vraiment des idées quand même de réalisation. Enfin, il y a quelque chose où on regarde quelque chose. Enfin, il se passe pas rien à l'image et ça, je trouve ça bien. Il y a le choix du coup du 4 tiers qui pour moi est pas forcément justifié, mais qui m'a beaucoup fait penser. On parlait d'André Arnold tout à l'heure. Moi, ça m'a beaucoup fait penser quand même au film Fish Tank. À la fois dans la manière dont c'est filmé, mais aussi dans les dynamiques en fait, entre, bah, comme tu l'as dit, cette mère défaillante, cette jeune fille qui essaie d'échapper à ce milieu-là, mais qui se retrouve aussi ramenée à une posture de mère, finalement, pour sa petite sœur. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, même si, comme vous, je trouve que tout l'aspect en fait, télé-réalité, obsession de l'image, il n'est pas suffisamment poussé pour moi, parce que je pense qu'en fait, ce qu'elle voulait aussi un peu montrer, c'est que cette jeune fille, au-delà, enfin, ce qu'elle cherche, c'est pas tant d'être une star et d'être riche, mais c'est surtout d'être aimée, en fait, d'être aimée, d'être regardée, d'être appréciée, que son nom connote quelque chose. Du coup, forcément, le film un peu maladroitement essaie quand même de nous le mettre vachement en miroir avec justement le fait qu'elle n'est pas aimée du tout dans son foyer familial. Mais malgré tout, moi je trouve que ça en fait c'est pas suffisamment poussé et que limite en fait la relation avec la mère, je la trouve beaucoup trop en surface parce qu'en fait quasi tout tourne autour en fait de cette relation. Mais Andréa Bescon qui joue du coup la mère de cette jeune fille a 3 scènes en fait à tout péter et apparaît même pas 10 minutes dans l'entièreté du film, ce que je trouve un peu dommage, en fait, finalement, si c'est ça qu'on voulait nous raconter à la base. Et du coup, le fait de ne pas être allé franchement dans un sujet, ça fait que c'est un espèce d'entre-deux, je trouve, dans le film, qui fait qu'à la fin, à nouveau, je ne vais pas dévoiler cette fin-là, mais ça fait
c'est dur de pas
c'est
en parler.
Dur de pas en parler. Mais du coup, on ne sait pas quoi retenir, en fait. C'est qu'on se dit, OK, donc là, on nous a montré à quel point cette fille est juste perdue, parce que pour moi, c'est juste ça aussi. Enfin, ça m'a limite fait penser par moments à Rien à foutre aussi, le film avec Adèle Exarchopoulos, dans ce truc d'errance, en fait. Agathe Ridinger. joue aussi beaucoup là-dessus, quasi trop, je trouve, parce qu'il y a énormément de séquences qui reviennent assez longuement sur cette jeune femme qui juste déambule dans des espèces d'espaces périurbains un peu abandonnés à la lisière entre des Ikea et des Leroy Merlin en talons et en mini-jupe et qui marche. Et du coup, ça, c'est intéressant une fois, deux fois, mais je pense que j'ai pas le découpage technique en tête, mais je pense qu'il y a une dizaine de séquences de déambulation. Et du coup, ça fait qu'on a...
Il y a aussi la séquence obligatoire de boîte de nuit en stroboscope.
Bien sûr. Il y a un petit bingo quand même qu'on peut faire, je pense. Il y a un bingo faisable dans ce film-là, semi-drame social, mais qu'on essaie de rendre contemporain.
Un peu arty.
Voilà. Exactement.
Les danses TikTok, absolument, on n'entend pas Manon en micro, mais les danses TikTok sont dedans.
Très TikTok. Et du coup, j'avoue que ça m'a questionné aussi. Enfin, je trouve ça important parce que c'est un vrai fait de société, en fait, mine de rien, ça, et notamment la chirurgie chez les plus jeunes, parce qu'on parle quand même d'une fille de 19 ans qui s'est déjà refait faire la poitrine, qui s'est refait faire les lèvres, qui souhaite se refaire faire les fesses. Du coup, c'est un vrai aussi fait de société. À la fois, j'arrive pas à savoir à quel point le film aussi va vieillir et qu'est-ce que ça va nous dire, en fait, sur ce qu'on vit là actuellement d'ici quelques années, parce que, en fait, ce sujet-là n'est pas non plus poussé. Du coup, globalement, c'est le problème, c'est que pour moi, il y a plein de fils qui ont été tirés mais qui n'ont pas été suffisamment poussés pour retenir vraiment quelque chose de fondamental de ce film, même si je trouve que c'est un premier film qui reste quand même maîtrisé et que moi j'ai apprécié regarder comme premier film de Cannes,
oui,
finalement.
Oui, complètement. Alors c'est sûr qu'on n'est pas, on n'en sort pas avec un sentiment désagréable, ça je suis tout à fait d'accord. J'ai été un peu plus méchant peut-être parce que en fait moi je trouve en effet le point de départ assez génial, le fait de dire que cette fille là complètement paumée à laquelle on va proposer d'être dans une télé-réalité, il y a un truc assez puissant, assez fort narrativement. Je trouve que malheureusement le film le traite quand même pas beaucoup et effectivement tout ce que tu dis, ces scènes d'errance, c'est un peu le symptôme aussi de en fait finalement on n'a pas grand chose à raconter et une fois qu'on a vu une scène avec sa mère, deux scènes avec sa mère, trois scènes avec sa mère, c'est toujours un peu les mêmes scènes et le film piétine un peu beaucoup là-dessus et c'est un peu dommage je trouve parce qu'il n'exploite pas à mon avis tout
un sujet qui est immense, quoi,
immense vraiment, et qui pouvait en plus être beaucoup plus subversif qu'il ne l'est. Et moi, c'est un peu ça que je reprocherais au film, c'est qu'il reste quand même assez sage dans plein de choses, et notamment dans le rapport du personnage principal à son corps, à la manière dont elle peut l'utiliser pour progresser. Donc, il y a un truc où le film s'arrête toujours un peu avant la subversion, avant un truc un peu plus pernicieux, où il se dit waouh, c'est vraiment, tu sens que ça brise un peu le cerveau. Et c'est là où je pense que le film est un peu trop théorique quand même sur son sujet, puisqu'il va utiliser un dispositif plusieurs fois dans le film où il va écrire des commentaires en surimpression, mais c'est des commentaires qui n'existent pas vraiment parce qu'ils sont très 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 littéraires, ils sont on dirait quasiment des préceptes bibliques.
Ils sont écrits dans une police très littéraire aussi, donc il y a vraiment un truc.
Et du coup ça m'interroge un peu sur la pertinence en fait du choix du sujet, sur la manière dont la réalisatrice se l'est vraiment appropriée. Et le deuxième point qui me fait un peu questionner ça, est-ce que c'est vraiment un sujet qu'elle avait envie de traiter ou est-ce que finalement c'était juste un point de départ pour raconter finalement l'errance sociale de cette gamine. C'est le fait que c'est quand même tourné en 4 tiers et en pellicule 16 mm. Quoi. Il y a quand même un peu ce cachet à chaque fois. On dit, mais en fait, c'est pas ça le régime d'image dans lequel existent ces jeunes gens. Et ils ne vivent pas avec ces images-là. Ça, c'est des images que toi, réalisatrice, tu trouves jolies et que tu trouves intéressantes. Et pourquoi pas ? Mais c'est pas les images que ces gens consomment, que tes personnages regardent, auxquels ils s'identifient. Et ça, je trouve qu'il y a un vrai souci, vraiment quasiment d'ordre esthétique, de dire, mais en fait, je ne rentre pas aussi en empathie avec ce personnage-là parce que le film a cette esthétique-là qui me les met forcément à distance. Parce que moi, je trouve que TikTok, je ne comprends pas la moitié de ce qui se passe dessus. Donc, si tu veux me montrer ce qui se passe dessus, je pense qu'il faut me montrer comment c'est fait. Et notamment de me montrer comment, à travers leur regard, ces images-là façonnent leur imaginaire.
En plus, c'est quand même une meuf qui commence à 10 000 followers, puis elle finit à 50. Ça veut dire qu'elle maîtrise quand même les codes. Et en fait, on ne la voit jamais maîtriser ces codes-là de TikTok.
Et d'ailleurs, on la la voir faire des danses TikTok. Pareil, c'est filmé en 16 mm. Et donc, je trouve qu'en pellicule, donc avec ce grain très particulier qui donne un truc très esthétisant et qui, moi, m'a un peu dérangé par rapport au sujet. Parce que je trouve qu'elle passe à côté de son sujet aussi de cette manière-là. Mais en tout cas, c'est un film qui se regarde sans déplaisir. Moi, je trouve qu'il avait tout à fait sa place comme premier film, comme ça, comme amuse-bouche, j'ai envie de dire, de cette compétition.
Moi, je voulais juste rajouter un truc. Je m'attendais un peu à voir un film, je ne sais pas si vous l'aviez vu, Pleasure, qui était aussi un film.
Oui.
Bon, pour le coup, la réalisatrice, donc c'est un film sur l'industrie du porno. La réalisatrice, elle avait fait plein de docus avant, donc elle était pour le coup très très renseignée sur cette industrie et ça se sentait de fou. Et vraiment, pour le coup, c'était vraiment le sujet, même si l'actrice principale était vraiment.
T'es pas une actrice X ?
Non, pas du tout, mais c'était une actrice complètement débutante. Mais enfin voilà, il y avait aussi un très beau portrait d'elle-même et tout, mais vraiment, il y avait un truc qui questionnait l'industrie du porno. Elle reprenait certains codes pour en détruire. Sa mise en scène était hyper intelligente, hyper travaillée et tout.
Parce qu'il y avait vraiment des cadrages que tu aurais pu trouver dans le porno.
Exactement,
justement,
mais qui à chaque fois préservait quand même l'actrice et tout ça. Enfin, elle avait fait un taf de fou sur le cadre et tout. Voilà, moi j'aurais aimé plus voir un truc. Je trouve que le sujet là s'y prêtait et on n'a pas vu ça et c'est dommage. Et elle n'est peut-être pas assez renseignée sur. Parce qu'on en voit des tonnes des reportages, des trucs sur l'influence sur et tout. C'est dommage de ne pas avoir utilisé tout ce qu'on sait sur ça pour.
Et on écoute tout de suite l'interview de Jonathan Millet, le réalisateur du film Les Fantômes, qui était présenté aujourd'hui en ouverture de la Semaine de la Critique. Bonjour Jonathan Millet.
Bonjour.
Vous êtes le réalisateur du film Les Fantômes, qui a été présenté aujourd'hui en ouverture de la Semaine de la Critique. Alors Les Fantômes, ça raconte l'histoire d'un jeune réfugié syrien qui traque les criminels de guerre cachés en France et en Allemagne, entre autres, en Europe en tout cas. La première question, c'est comment vous est venue l'envie de raconter cette histoire qui est très étonnante, très originale. En tout cas, le pitch est extrêmement accrocheur quand on le lit pour la première fois.
En fait, moi, je viens du documentaire et je travaillais sur un sujet autour des réfugiés de guerre. Et je rencontre beaucoup de Syriens à ce moment-là, de Syriens qui ont vécu la torture, de Syriens qui ont vu leur vie brisée. Et je commence à entendre parler de cette histoire. Et tout de suite, elle m'emporte. Tout de suite, je me dis, il y a quelque chose d'incroyable à raconter. Il y a et la grande histoire et un point de vue subjectif hyper fort, une histoire personnelle hyper forte à raconter. Donc, en fait, dès que j'ai commencé à en entendre parler, je me suis plongé dedans, à corps perdu.
Donc, c'est quelqu'un qui vous a raconté, cette histoire.
Oui, c'est des bruissements.
Des bruissements, qu'on dit que ça existe, on sait que ça existe, on sait qu'il y a des groupes qui essayent d'identifier des criminels de guerre syriens, ou c'est comme ça que vous en avez entendu parler ?
Exactement. En fait, on est à un moment où, par la Russie et la Chine, il y a un veto absolu sur le fait d'intervenir en Syrie. Oui. Et donc, il y a un grand nombre de Syriens qui arrivent en Europe, principalement en Allemagne. Et ces Syriens savent que parmi eux, il y a quelques criminels de guerre du régime, figures du régime de Bachar al-Assad, qui sont en Europe aussi. Il y a quelques histoires d'un gars qui en rencontre un autre dans un supermarché. Il est derrière, dans la file d'attente et il voit son bourreau juste là, 3 mètres plus loin.
Ce qui est intéressant, c'est que comme ça a pu arriver au moment des traques de criminels de guerre nazis ou du Chili, ou enfin de ce genre de choses.
Exactement. Exactement. Il y a quelque chose d'intemporel dans cette idée-là, qui est de se dire que la justice, parfois, ne peut faire son travail. Et donc, c'est presque d'abord ces histoires individuelles qui m'ont touché. Cette histoire de cet homme qui dit, tiens, dans un supermarché, je vois la figure de mon bourreau qui, pendant 3 ans, m'a torturé dans la prison.
Et c'est quasiment une scène de cinéma en tant que telle.
Complètement. S'ajoute à ça un rapport à la sensorialité, qui est que dans les prisons, on est dans le noir.
Ah oui, donc on n'entend que la voix. Et l'odeur.
C'est l'odeur pour les cadavres, savoir où se placer dans la prison. Et en fait, je sens bien qu'il y a là un projet de cinéma qui naît tout de suite et qui, en fait, naît purement du réel, purement de ces récits. Et je me décide à utiliser la fiction d'abord parce que je passe un an à me documenter et je vois bien que c'est des groupuscules secrets, que personne
ne veut parler,
que ce serait absurde de vouloir mettre des images là-dessus. Ouais. Mais donc, je passe vraiment un an de documentation extrêmement précise pour pouvoir naviguer dans la fiction, c'est-à-dire créer des personnages, mais qui tous sont juste dans le cercle de la vérité, disons, et pour pouvoir raconter cette histoire par le biais de la fiction. Et je sais que la fiction permet aussi d'être aussi puissant et aussi fort que les récits que j'ai entendus, d'utiliser cette sensorialité et de la faire ressentir. Mais il n'y a pas théorique.
Il y a justement cette. Quand on parlait des différents sens, il y a l'ouïe est un sens qui est très important dans le film, puisque le personnage principal va entendre beaucoup de témoignages et ça va le replonger un peu dans une sorte de spirale où le groupe auquel il appartient va lui dire attention, tu dois rester froid, tu dois rester pragmatique, mais d'être confronté à tous ces témoignages va rebooster quelque part sa détermination, sa motivation à traquer son bourreau. Et à ce moment-là, on plonge un peu dans une sorte de thriller paranoïaque. C'était une intention, ça, c'est une volonté d'aller du côté vraiment de l'ornier de ce côté-là, du thriller, un peu presque des années 70, comment vous êtes inspiré de ce registre-là pour faire le film ?
Oui, c'est-à-dire, quand je me dis que j'ai envie de le raconter sous forme de fiction, j'ai envie d'emporter les spectateurs comme moi j'ai été emporté par les histoires. Ouais. Donc je me dis, il faut y aller vraiment, il n'y a pas d'entre-deux. Ouais. Et en fait, d'une certaine manière, c'est encore le réel qui me porte, c'est-à-dire que les histoires d'espionnage, aujourd'hui, je les vois tous les jours quand je rencontre des exilés qui me racontent qu'ils ne peuvent pas utiliser leur vrai nom parce que sinon ils risquent l'expulsion, que leur âge, ils doivent mentir dessus pour telle et telle raison, que si jamais ils se font arrêter, ils pourraient se faire renvoyer dans leur pays. Ils sont sous légende.
Ouais.
Quand je fais un film sur des exilés qui sont sur la route, ils me racontent qu'ils sont tous sur légende.
Donc en fait, le thriller d'espionnage et paranoïaque s'impose presque naturellement dans ce cas-là,
oui.
Pour raconter cette forme-là de réalité.
Complètement. Après, c'est aussi, moi, ce qui me touche en tant que spectateur, c'est que je n'ai pas du tout envie du réalisme plat, de dire voilà la réalité, voilà ce qui se passe, voilà un plan large du réel. Et j'ai envie de pouvoir immerger le spectateur, donc en n'ayant aucune retenue dans les outils du cinéma qu'on emporte,
ouais.
Et de pouvoir lui dire, ce qu'on va faire, c'est de pouvoir ressentir ce que vit le personnage. Parce qu'il y aurait une autre manière de faire le film qui serait de raconter la grande histoire au sens large, de manière un peu exhaustive. Voilà ce qui se passe ici, voilà ce qui se passe là-bas. Et moi, ce que j'ai choisi de faire, parce que ça me semblait plus fort, ou en tout cas, moi, ça me touche plus, c'est l'immersion par le point de vue subjectif.
Oui, et du coup, vraiment l'intimité de suivre ce personnage-là en particulier,
exactement.
Ses problématiques et de comprendre le monde à travers ses yeux.
On raconte la grande histoire par le point de vue intime, on est dans la perception de notre personnage, on est profondément subjectif, on est profondément avec lui, et du coup, on tremble avec lui,
avec
pour lui.
Lui,
de lui, enfin, on est avec lui. Donc, c'est pas théorique, on n'est pas de loin, on ne regarde pas de loin toute cette histoire, on la vit.
Et votre protagoniste, qui est donc interprété de manière très, très brillante par Adam Bessa, je vais vous demander comment vous aviez trouvé ce comédien et surtout comment vous aviez trouvé ce duel de comédien, parce qu'il y a une scène dont je ne vais pas révéler la teneur, mais qui est assez bluffante de retenue et en même temps de suspense, où ce personnage-là confronte peut-être son bourreau. Et on ne sait jamais dans cette séquence-là qu'est-ce qu'il en retourne, pardon. Qui dit vrai, qui dit faux, qui ment. Et comment, du coup, vous avez premièrement trouvé ce comédien et comment vous avez travaillé avec cet autre comédien pour construire ce duel, cette scène un peu comme dans Hit de Michael Mann.
Complètement. Qui était une référence, bien sûr. En fait, j'ai passé beaucoup de temps en casting. On a fait plus d'un an de casting. Parce que dans le fond, ce qu'on demande aux personnages, c'est de mentir et de ne jamais rien exprimer. Et en même temps, de transmettre aux spectateurs un tourbillon absolu d'émotions.
Pour qu'on soit en empathie avec eux.
Exactement. Et c'est hyper contradictoire et compliqué. Donc j'ai rencontré plus d'une centaine de comédiens. On a fait 15 pays en casting. On est allé partout. On a fait des avions dans les deux sens. Et à un moment donné, j'ai rencontré Adam. Et j'ai senti qu'il avait l'intensité que je cherchais sans la jouer. C'est-à-dire que je peux sentir, quand il est posé, assis, immobile, quelque chose d'extrêmement fort qui se joue en lui. Parce que moi, je voulais un film avec des curseurs d'intensité très forts. Et ce personnage, on doit tout de suite croire qu'il a vécu tout ça. Il ne doit pas nous le dire, on ne doit pas l'apprendre, on doit le sentir en lui. Ça doit être immédiat, ça doit être quelque chose qui ne se truque pas. Et donc, il me fallait vraiment ce type de comédien qui,
sur lequel on pouvait projeter tout ça aussi.
Exactement, quoi. Qui irradie cette espèce de force, cette espèce de puissance et cette intériorité-là. Et chez Adam, je l'ai trouvé. Et du coup, il me fallait la force contraire, pour ainsi dire, c'est-à-dire un comédien qui soit au moins au même niveau. Et chez Taoufik, qui joue donc l'autre rôle.
Qui jouait le rôle principal dans Boy from Heaven.
Exactement, la conspiration du Caire.
De Tariq Saleh.
Tout à fait. Il fallait plutôt quelque chose de magnétique, parce que lui, on va le suivre d'abord de loin, on l'observe, on récupère un bout de son visage, un bout de voix, et on a envie d'en savoir plus. Et il me fallait un comédien, un physique assez magnétique, pour que moi, spectateur, dès que je vois un bout de ce personnage, j'ai tout de suite envie d'en voir plus.
Ouais.
Et je sois prêt à tenir 3 heures de film s'il le faut, pour enfin le voir de face et l'entendre parler. Parce que cette scène où à un moment ils sont face à face, il faut qu'elle nous tienne. Il faut qu'au moment où elle arrive, on se dise « Enfin, je suis face à ce visage, j'ai tellement eu envie de le voir. »
Et je ne sais pas ce que je dois en penser. C'est
exactement.
Ça qui est très perturbant quand on voit ça.
Exactement. De toute façon, le film entier ne se veut ni noir ni blanc. C'est-à-dire que c'est un film sur le doute. Mm. On vient plonger au cœur de l'intériorité d'un personnage et on vient creuser le doute et ses tiraillements. Et donc, le film ne doit jamais dire c'est tout ça ou tout ça, et on doit être dans un chemin sinueux, dans les méandres, et douter aussi en continu, comme le personnage principal.
Bah, merci beaucoup, Jonathan Millet.
Merci.
Bon courage pour la suite de la trajectoire de ce beau film. Je rappelle, il s'appelle Les Fantômes, et qui sort le 3 juillet au cinéma. Merci beaucoup.
Et donc, c'était l'interview de Jonathan Millet par Yuri Rebeko, le fameux. J'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à rester sur Radio Campus ce soir. On remercie tout le monde qui était là ce soir. Laurent Félix, Valentin, Alban, moi-même, parce que bien sûr. Et puis, on remercie évidemment à la réalisation. J'ai un énorme trou de mémoire, mon Dieu. Axel, excuse-moi. On remercie Axel à la réalisation. Bonne soirée, restez sur Radio Campus Paris.